commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Au nom de Jésus. Seigneur, restaure ton église, restaure ton peuple. Rimoko sheketeri da bobo sikatari da bobo shata. Éternel roi de gloire, ce matin nous nous soumettons à l'autorité de ta parole. Peu importe ce que j'ai pensé dire, je prie au Père que toi tu communiques ce qui vient de toi et ce qu'il y a dans ton cœur. Yahweh, s'il faudra que je change le programme, s'il faudra que le message change, libre à toi, Saint-Esprit, conduis-nous selon la pensée de Dieu ce matin. Au nom de Jésus, qu'une puissante onction descende sur nous, Seigneur, et que quelque chose se passe. In Jesus' name, Amen. Shalom bien-aimé. Ce matin, pardonnez-moi si je ne respecte pas l'introduction, le développement, la conclusion, si je n'observe pas toutes ces histoires, pardonnez-moi. Je prie que le Seigneur puisse parler à quelqu'un ce matin. Parce que je crois que Dieu a un message pour quelqu'un. Nous allons parler de l'Église et de la société, encore une fois. Mais ce matin, je voudrais parler de l'Église dans la société. Dis à ton frère, église dans la société. Ne sois pas scandalisé parce que j'ai pas ma Bible avec moi. J'ai pris soin d'écrire tous les textes que nous allons lire. Amen. Ok. Le premier texte, c'est dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 3, nous lirons le verset 8. La Bible dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. 2 Rois 2, 19 à 22. C'est le même texte que nous avons lu l'autre fois. 2 Rois 2, 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Troisième lecture, Matthieu 5, 13 à 20. Matthieu, le chapitre 5, du verset 13e au verset 20e. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et enfin, notre dernière lecture, c'est dans le livre de Jacques, le chapitre 2. Du verset 4 au verset 20. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas des œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir ô homme que la foi sans les œuvres est inutile? L'Église dans la société. L'apôtre Jacques parle de la foi, mais une foi qui s'exprime au travers des œuvres. Une foi qui se manifeste, une foi qui se matérialise, une foi que l'on peut voir, dont on peut rendre témoignage. Alors il dit, à quoi ça sert-il que tu me dises que tu as la foi, si je ne peux vivre cette foi en toi? Comment saurais-je que tu as la foi si je n'en vois pas les œuvres? Ou comment puis-je commencer à attester ou certifier de ta foi s'il n'y a aucune œuvre qui la prouve? Il est convenable que ta foi soit certifiée par les œuvres. Car qu'est-ce qui matérialise, qu'est-ce qui extériorise ta foi si ce ne sont les œuvres de la foi? Le Seigneur a mis dans mon cœur un message pour ce matin. Plusieurs fois, je me suis dit, Seigneur, est-ce que je dois vraiment prêcher ces choses? Et j'ai senti cela revenir et revenir encore. Écoutez, bien-aimés, le christianisme n'est pas un ensemble des théories vides de sens et mortes. Le christianisme est une vie. Le christianisme est une expérience. Le christianisme est pratique. Alléluia. Du reste, différemment des autres religions, notre christianisme, c'est par le fait que nous avons une communion, une relation avec Dieu. Et comme conséquence de cette communion, cela se répercute sur notre vie de tout le jour. Alléluia. L'apôtre dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai ma foi au travers de mes œuvres. Montre-moi ta relation avec Dieu, montre-moi ton christianisme sans les œuvres, et moi sans pour autant te dire que je suis chrétien, je vais vivre et je vais te laisser le temps de certifier et de témoigner de ce que tu vas voir au-dedans de moi. Bien-aimés, nous sommes environnés d'une race d'hommes de Dieu, d'une race d'enfants de Dieu qui passent plus leur temps à témoigner de leur fidélité qu'à vivre leur fidélité. Des gens qui passent plus leur temps à dire qu'ils sont enfants de Dieu qu'à vivre le fait d'être enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin que tu me dises que tu es un enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin que tu me dises que tu appartiennes à Dieu. Laisse-moi voir la présence de Dieu en toi et je vais témoigner que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes fatigués de ces gens qui nous disent qu'ils appartiennent à Dieu, de ces églises qui nous disent qu'ils appartiennent à Dieu. Et quand vous y entrez, il y a tout sauf Dieu. Je suis fatigué de ces gens qui proclament leur bonté, qui proclament leur fidélité, qui proclament leur foi. Mais quand tu les approches, il n'y a rien qui témoigne, il n'y a rien qui certifie, il n'y a rien qui atteste cela. Dieu a besoin de quelque chose de réel, de quelque chose de palpable. Écoutez, l'Église, nous avons une mission dans la société. À part le fait que nous sommes le sel, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Nous devons luire, nous devons éclairer. La Bible dit qu'on n'allume pas une lumière pour le mettre sous le boisseau, mais on la met sur une table, sur le chandelier, afin d'éclairer tout le monde. La Bible dit afin d'éclairer les hommes. Les hommes ont besoin d'être éclairés par notre lumière. La société a besoin d'être éclairée par notre lumière. Est-ce que je peux te poser une question? Quel est le témoignage que tu reprends autour de toi? Si je viens dans ton milieu professionnel, si je vais chez toi à la maison, si je demande à ton épouse, si je demande à ton mari, si je demande aux gens que tu fréquentes ou aux gens qui te fréquentent, quel est le témoignage qu'ils ont de toi? Oh bien-aimé, c'est fini, arrêtons de nous mentir à nous-mêmes, que notre christianisme soit vrai, que notre christianisme soit authentique et que nous puissions, que les gens en témoignent. Nous venons en ces lieux, nous levons nos mains, nous prononçons et nous déclarons de grandes prières. Mais quand on redescend dans la société, bien aimé, on se demande si c'est la même personne ou la personne a la capacité de se dédoubler. À l'église, c'est une autre personne, dans la société, c'est une autre personne. Là où tu vis, les gens ont du mal à connaître ton identité. Et quand on parle de toi comme un enfant de Dieu, c'est avec peine que les gens peuvent supporter l'entendre. Tu as un mauvais témoignage. Et tu fermes la porte de l'évangile à ces gens et à ces femmes qui sont autour de toi. L'heure est arrivée où l'église doit avoir un impact réel dans la société. Certes, la fois passée, nous avons parlé de cet impact par les œuvres sociales, assister le pauvre, venir au secours à ceux qui en ont besoin. Mais ça, c'est un aspect. Ces choses n'auront leur efficacité et leur impact que si nous avons des vies changées. L'église est remplie de gens à double face, des hypocrites. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Arrêtons de nous tromper en nous-mêmes. Si tu es une lumière, alors lui autour de toi. La Bible dit que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Écoutez, il ne s'agit pas de choses que l'on va cacher. Non, moi j'ai ma vie privée, j'ai ma manière à moi de vivre. Non, tu n'as pas ta manière à toi de vivre avec le Seigneur. La Bible dit que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Il faut que les gens qui sont autour de toi puissent voir cela et puissent témoigner de toi. La Bible dit que ce genre-là voit tes bonnes œuvres. De Corinthiens 5, 17, 8 secondes dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es en Christ, mais tu demeures dans les choses anciennes. On te retrouve dans les choses d'autrefois. Tu continues à fréquenter les boîtes de nuit. Tu continues à avoir un langage léger. Tu es marié, mais tu continues à tripoter des filles à gauche et à droite. Célibataire, mais tu as une vie sexuelle active. Et tu es un enfant de Dieu. Écoutez, ce matin, je ne parle pas aux païens, je parle aux chrétiens. L'apôtre dit, il est honteux de dire ce que ces gens font dans le secret. Tu es un enfant de Dieu, mais cependant ta vie est tout sauf la vie du Christ. Tu sors avec un mari d'autrui et tu sais que c'est mauvais. Et tu viens en ces lieux chaque mercredi, chaque jeudi, chaque dimanche. Tu lèves tes mains et tu adores le Seigneur. Mais comment as-tu pu rendre ton cœur si incrédule? Ce n'est pas que tu ne connais pas la loi de Dieu. Tu connais la pensée de Dieu. Dieu a imprimé ta pensée dans ton cœur. Et tu sais, tu sens que ce que tu fais est mauvais. Mais tu persistes. Tu es en train de tuer l'œuvre de Dieu. Alors que les hommes de Dieu se lèvent à gauche et à droite et ils parlent de la part du Seigneur afin que les gens viennent à Christ, afin que les gens soient changés, afin que les gens soient transformés. Toi, tu te passes ton temps à faire le contre-témoignage. Je prie le Seigneur que ce matin, que quelqu'un prenne la résolution de remettre de l'ordre dans sa vie. Car tu es un frein à l'évangile dans la société. Aujourd'hui, le nom de l'église, la gloire de l'église est bafouée. Et comme du temps du sacrificateur Élie, Ichabod, la gloire est bannie de la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce que ceux là même sur qui le nom de l'Éternel est invoqué vivent dans la compromission. J'ai aimé une version que j'ai lue. Celle-là, elle dit, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, bien-aimé, je ne parle pas ici des gens qui ont simplement une rencontre intellectuelle. Il s'agit d'une véritable communion avec Christ. Et cette communion a des conséquences. Elle nous change, elle nous transforme. Nous ne pouvons prétendre servir Dieu et rester le même. La version dit, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qui était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Bien aimé, il s'agit d'une nouvelle identité. Il s'agit d'une nouvelle vie. Certes, nous sommes sauvés par la foi, mais la foi n'a pas de sens si elle ne produit pas des œuvres. La foi qui sauve, c'est celle qui produit des œuvres. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu n'es pas différent des démons qui croient que Dieu existe et qui tremblent si ta vie ne produit aucune œuvre. Si tu restes dans les mêmes choses qu'autrefois. Tu es entré dans un cycle. Aujourd'hui tu tombes, demain tu te relèves, et après demain tu tombes, et après tu te relèves. Tu es entré, bien aimé, je prie le Seigneur que ce matin, que ce cycle soit brisé. Il ne suffit pas de dire que l'on est chrétien. Il faut vivre sa foi. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, ne dites pas que vous êtes des enfants de Dieu, des fils d'Abraham, nous allons lire cela. Luc 3, 8 dit ceci. Dans la version 8 secondes, on dit exactement ceci. Produisez des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ses pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. C'était plutôt Jean-Baptiste, j'avais dit le Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste pouvait dire à ce contemporain, produisez des fruits dignes de la repentance et arrêtez de vous mentir en vous-même en disant que nous sommes fils d'Abraham, nous sommes enfants d'Abraham. Arrête de te mentir à toi-même en disant j'appartiens à Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau, je suis chrétien. J'ai parlé avec une servante de Dieu qui exerce dans la mission en Ouganda. Alors elle me dit ceci, là où je travaille, on a arrêté de demander aux gens, est-ce que tu es né de nouveau? Pourquoi? Parce que tout le monde est né de nouveau. Mais plutôt quand on veut évangéliser quelqu'un, on s'approche de lui, on lui demande, est-ce que tu as une vie transformée? Car c'est de ça qu'il s'agit. À quoi sert-il de naître de nouveau si on n'a pas une nouvelle vie? La nouvelle naissance a une conséquence, c'est la nouvelle vie. Une autre version dit ceci, le même passage. Montrez par des actes que vous avez changé de mentalité. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, Abraham est notre ancêtre, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, je sers à l'église. Montrez par des actes que vous avez changé. Une autre version dit, produisez donc des fruits dignes du changement radical. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui me surprend, c'est qu'alors même que nous sommes ici, il y a des enfants de Dieu qui entretiennent des relations illicites. Chrétiens, enfants de Dieu. Je ne parle pas ce matin aux païens. Je parle aux enfants de Dieu. Je parle de ceux qui sont appelés du nom de Dieu. Mais tu entretiens des relations illicites avec une de tes collègues au bureau, un de tes collègues au bureau. Vous passez votre temps à vous tripoter, à vous flirter. Mais ce n'est pas ta femme. Mais ce n'est pas ton mari. Et vous pensez que les gens sont ignorants. Vos collègues connaissent, ils savent cela. Ils ne vous le disent peut-être pas, mais ils le savent et ils sont au courant. C'est en cela que vous êtes en blocage. Vous savez ce qu'ils disent? Si ceux-là qui se disent être enfants de Dieu vivent une telle vie, à quoi sert-il? Pourquoi je vais me convertir? Pourquoi je vais aller dans son église? Regarde la vie qu'il mène et pourtant il dit qu'il est un enfant de Dieu. Chaque jeudi, tu t'empresses de faire tes affaires, de fermer tes notes. On te demande, mais pourquoi tu es si pressé? Non, c'est jeudi, il y a l'intercession, je dois aller à la prière. Chaque mercredi, tes collègues te voient et tu penses qu'ils ignorent. Ils ignorent pas. Ils se moquent de toi, ils se rient de toi. Oh, David pouvait dire, alors que Saül et Jonathan sont tombés, ils ont dit, non pas, ils vont se rire de nous, ils vont se moquer de nous, n'en parlez pas, bien-aimés, les filles des Philistins se moquent de nous. Tu ne comprends peut-être pas l'ampleur de la mauvaise vie que tu mènes, mais sache que tu es en train de bloquer l'épanouissement et l'extension du règne de Dieu dans cette ville. Je prie le Seigneur que la conscience de quelqu'un se réveille ce matin et que tu comprennes que tu as plus qu'une responsabilité. Quand tu marches, tu nous as tous sur ton dos. Quand on te regarde, on ne voit pas que toi. On voit ton frère, on voit ton église, on voit ton pasteur. Est-ce que tu te rends compte de cela? Que quand tu fais une bêtise, ce n'est pas toi seul qui s'enlise dans la bêtise, mais tu nous entraînes, nous tous, avec toi. Et quand tu viens, tu chantes de gloire en gloire, emmène-moi. Dieu ne va pas t'amener dans aucune gloire. Tu aimes la gloire de Dieu et tu ne veux pas aimer le Dieu de gloire. Je ne parlerai pas des fiancés, des fiançailles souillées, des fiancés qui couchent ensemble, des fiancés qui font tout ensemble. Arrête ces choses. Je ne voudrais pas parler des caractères que nous avons chez nous, maman. Combien, comment tu traites tes travailleurs? Regarde comment tu insultes ces jeunes garçons qui travaillent chez toi. Cette pauvre femme qui travaille chez toi. Tu lui parles sans respect. Elle a des enfants. Elle est peut-être même plus âgée que toi. Mais regarde comment tu la dédaignes, tu la méprises. Tu l'insultes à la limite. Mais cette pauvre maman sait que tu vas à l'église. Cette pauvre maman t'entend chaque matin quand tu élèves ta voix pour prier. Bien-aimé, ta prière même est une abomination. C'est la Bible qui le dit. La prière d'un pécheur est une abomination. Tu as un mauvais caractère et les gens le reconnaissent. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Les gens savent que tu as un mauvais caractère. Les gens ont du mal à t'approcher. Pas parce qu'ils te respectent, mais parce qu'ils ont peur que tu les blesses, insolents, agressifs. Tu manques la compréhension, tu ne sais pas comprendre des gens qui sont autour de toi. Tout ce que tu veux, que les gens me comprennent. Et pour n'y comprendre, n'a été. Écoutez, nous sommes appelés à comprendre le monde. Le monde ne nous comprendra pas. Mais dans ta famille, on sait que tu es intolérant, insupportable. Les gens ont du mal à être près de toi. Les gens ont du mal à vivre. Écoutez, le Seigneur Jésus-Christ, quand il vivait, les gens se sentaient bien d'être autour de lui. Les gens aimaient être autour de lui. Les gens aimaient passer du temps avec lui parce que de sa bouche sortaient des paroles d'amour, des paroles de grâce, des paroles de bénédiction, des paroles qui réjouissaient le cœur, des paroles qui restauraient. Mais dans notre bouche, il y a un venin qui nous tue. Non, je ne veux pas m'approcher de lui. J'ai peur d'être blessé. C'est la réputation que les gens ont de toi. Enfant de Dieu. Quelle image de l'Église tu reflètes autour de toi et dans la société? Quelle image? Vous savez, nous avons appris à jouer des rôles. Nous sommes tous devenus des acteurs. Et nous sommes très forts en cela. Je sais quel rôle je dois jouer à l'église. Dès l'instant que je vois le pasteur, je sais quel rôle je dois jouer. Je sais quel langage je dois avoir. Je sais quel geste je dois faire, mais ce n'est qu'un rôle. Il y a plusieurs acteurs ici ce matin. Ils connaissent très bien, ils ont maîtrisé leur script. Ils savent quoi dire, quoi faire, quoi ne pas dire, quoi ne pas faire, dans cet endroit ou dans cet autre endroit. Mais va le voir ailleurs, tu verras que ce n'était qu'un acteur, ce n'était qu'un comédien. Ça fait peut-être rire, mais c'est à pleurer. Parce que Dieu saigne dans son cœur. Et les larmes coulent aux yeux de Dieu. Quand le Seigneur te regarde, il voit quelqu'un sur qui il peut compter pour étendre son royaume. Quand le Seigneur te regarde, il voit quelqu'un sur qui il peut compter pour influencer la société. Quand le Seigneur te regarde, il voit quelqu'un sur qui il peut avoir confiance. Égoïste. Des enfants de Dieu, mais des égoïstes. Akabakate. Et les gens le savent. Bien-aimé, ça là, t'as moi semblant. Ça là, t'as moi semblant. Bah, yébi au salé la kanzambe. Les gens sont au courant, mais un égoïste. Il ne partage pas aussi longtemps qu'il ne se rassure pas qu'en retour, il recevra quelque chose. Au Simba Flambeau. Et une autre chose que j'ai vue, que je vis parmi les enfants de Dieu, c'est un manque de serviabilité. Les chrétiens ne savent pas servir. Nous ne sommes pas prêts à rendre service. Écoutez, bien-aimés, Dieu nous a appelés pour servir et pas pour être servis. Mais nous nous sommes tous donnés des trônes, surtout des serviteurs de Dieu dans les églises. Je prie que ces choses ne soient pas trouvées parmi nous. Les hommes de Dieu se sont tous donnés des trônes. Ils veulent être servis. Écoutez, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, et même avant de venir, il s'est dépouillé de son habit de roi, de son habit de Dieu. La Bible dit, il s'est dépouillé de sa gloire divine. Vous savez de quoi il s'est revêtu? Il s'est revêtu d'un habit de serviteur. La Bible dit, lui qui était égal à Dieu n'a pas considéré cela comme une proie arrachée, mais il s'est humilié lui-même, il s'est rendu semblable à un serviteur et il s'est mis à servir. Il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Nous ne voulons pas servir, nous voulons être servis. Ces choses ne se passent pas chez nous, mais allez ailleurs. Même des gens pour servir le Seigneur, ils veulent être payés. Je veux bien, tu as besoin d'être payé, je veux bien. Mais le service d'abord, Dieu lui-même se chargera de toi. Tu demandes à quelqu'un de venir rendre service au Seigneur, il te demande de l'argent. Combien tu me donnes? Combien tu me payes? Écoutez, si le Seigneur devait te demander un prix au salut qu'il t'a donné, allais-tu être capable de lui donner quelque chose? Il n'a pas passé son temps à voir si tu étais capable. Il a pourvu lui-même, il t'a regardé, il a vu ton insuffisance, il a vu ta pauvreté. Et il a dit, je vais pourvoir moi-même. Et il a pourvu au prix de son sang. Il a payé pour que tu n'aies plus rien à payer. Mais aujourd'hui, pour lui rendre service, tu veux être payé. Et les hommes de Dieu se sont tous créés des trônes. Moi, je crois que ça, c'est même l'esprit de l'Antichrist. La Bible dit que c'est l'esprit, c'est l'Antichrist qui va entrer dans le lieu saint, qui va se mettre sur le trône et qui va se proclamer lui-même Dieu. La Bible dit que la désolation dont a parlé le prophète sera établie dans le lieu saint. Nous sommes créés des trônes. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, quand tu entres dans une fête, ne te précipite pas sur la première place. De peur qu'on vienne t'enlever de là parce que tu n'en es pas digne. Revêtons-nous d'un habit d'humilité et de serviabilité. Servons! Oh, permettez-moi que je parle au pasteur. Je sais que je ne suis pas vraiment la bouche autorisée. Je sais que je n'ai qu'un faible nombre d'années dans le ministère. Je sais que je n'ai pas d'expérience. Mais pasteur, permets-moi que je te parle. Je ne parle pas au pasteur d'ici. Pasteur, permets-moi que je te parle. Tu t'es créé ton propre empire. Où tu es le roi, où tu règnes. Où tu veux être servi. Écoutez, les membres, ce sont eux les rois. Toi, tu dois le servir. Nous voulons nous créer un nom. Laisse Dieu te donner un nom. Ne te crie pas toi-même un nom. Le jour où les gens ont voulu se créer un nom, c'était à Babel. La Bible dit que Dieu a fait descendre sur eux la confusion. Et comme un prophète, je voudrais dire ceci. Le temps arrive où le Seigneur va faire descendre la confusion sur tous ces pseudo-pasteurs. Ils ont aimé la gloire de Dieu plus que le Dieu de gloire. Et tout ce qu'ils font, ils amènent l'opprobre dans le sanctuaire. Ils profanent le sacerdoce. Et des fois même quand on les entend, on a du mal à les entendre beaucoup plus longtemps. Parce qu'on est tellement choqué, des fois par des insanités qui sortent de leur bouche. Et quand on vit à leur côté, on a du mal à en croire à nos yeux. Mais est-ce lui, est-ce cet homme? Mais comment est-ce qu'il peut vivre comme ça? Nous en avons entendu des choses. Des hommes de Dieu qui se compromettent, qui courent avec le fils. Et ils sont fiers de cela. Ils sont fiers de le reconnaître. Je prie que le Seigneur nous garde de ces choses. Seigneur, garde-moi de ces choses. Que j'en arrive jamais là. Que Dieu nous préserve. Je ne veux pas être un frein. Je ne veux pas être un blocage. Mais toi, plutôt, ce n'est pas ça. Toi, ton problème, ce n'est pas les filles, les femmes. Toi, tu es reconnu pour de faux documents. Tu es prêt à falsifier. Dans ton endroit, là où tu travailles, tu sais que tu falsifies les documents. Mais tu le fais de façon tellement subtile que les gens ne peuvent pas s'en rendre compte. Mais tu le sais. Et vous savez, des fois, nous voulons légaliser la fraude. Nous voulons donner un emballage de régulier, de régularité. Mais c'est de la fraude. Et dans ton cœur, tu sais que c'est de la fraude. Vous savez ce qui se passe avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est un gentleman. Quand il vient une première fois, il te parle. Si tu n'écoutes pas, la voix baisse. Mais il te parle quand même. Moins tu écoutes, plus la voix baisse. Et il arrivera un moment où tu n'entendras plus rien. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as déjà atteint cette étape où ta conscience ne te dit plus rien. Tu ne te rends plus compte que ce que tu fais est mal. Pourquoi? Parce que tu as fait taire la voix de ta conscience. Cela est un signe que l'esprit s'est retiré de toi. Tu es devenu endurci. Un autre mal que j'ai vu dans l'église. Alors là, ça m'a brisé. J'ai vu, sans doute, je suis pas en train de chercher ça dans ma poche, rassurez-vous. Dans l'église, j'ai vu la médisance. La médisance s'est installée dans l'église. La médisance, elle s'est assise dans l'église. La médisance gouverne l'église. Elle gouverne les cœurs des jeunes filles et des jeunes mamans. Elle gouverne les cœurs et les discours des papas. Quand ils se mettent ensemble, ils commencent à parler des gens. Ils commencent à critiquer les gens. Et vous savez, bien aimé, il y a une chose de très dangereuse dans la médisance, c'est que ça a un goût succulent. Plus tu médis, plus tu te sens bien. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'homme, il y a un ego, il y a un potentiel d'orgueil. Et à chaque fois que tu médis, c'est-à-dire tu critiques l'autre en mal, tu parles de son mal, tu es en train de te conforter dans ton ego. Qu'est-ce que cela veut dire? À chaque fois que tu dis « cette fille ne sait pas s'habiller, cette fille, regarde sa coiffure », ça j'ai vu ça souvent chez les mamans. Ils peuvent être ensemble en train de parler. Je ne parle pas de païennes, je parle de chrétiennes et c'est dans l'église que ça se passe. Laissez-moi être pratique. Elles peuvent être ensemble en train de parler. Dès qu'une sœur passe ou vient leur dire bonjour, elle salue avec beaucoup de chaleur. Mais dès l'instant que la sœur se retourne, « Hey, maman, mon nom est salut, Suki. Ah, en tout cas, on va te me souvenir. » Écoutez, c'est quel esprit dans la maison de Dieu? Nous devons repousser ces choses. Ça nous tue. Alors en ce moment-là, vous mettez à parler de son habillement. Est-ce que vous n'avez pas couleur pour un gros boy? Ah maman, mais putain, est jaune. On a dit ça pas du rouge. Oh nino, arc-en-ciel. Vous pensez comme arc-en-ciel. Et c'est dans l'église que ces choses se passent. C'est dans l'église que les gens sont blessés. Parce que tu sais une chose, c'est que la personne à qui tu parles de l'autre en mal, cette personne a en elle aussi l'esprit de la médisance. Dès l'instant que tu vas lui tourner le dos, elle va aller chez cette même personne pour qui vous avez parlé et ils vont se mettre à parler en mal de toi. Et c'est comme ça que nous tuons l'église. Nous avons fragilisé l'église. Et nous avons réduit notre impact. Comment veux-tu que l'Esprit de Dieu se sente à l'aise et qu'il agisse au milieu de nous, là où la médisance s'est installée, la médisance a pris racine. La médisance a un côté succulent. Pourquoi? Parce que tu es en train d'entretenir ton ego. À chaque fois que tu dis, lui il ne sait pas s'habiller, il ne sait pas entretenir sa femme. Autrement tu veux dire, moi je sais les faire, moi je les fais mieux. Et vous savez, très souvent, des gens qui se plaisent dans la médisance, ils se retrouvent eux-mêmes dans le même problème. Pourquoi? La médisance est souvent une projection. Quand tu médis avec quelqu'un d'autre, c'est que tu veux me désorienter, donc tu veux désorienter mes yeux de toi, et tu veux me désaxer sur quelqu'un d'autre pour que je ne vois pas tes défauts. Regarde lui comment il est. Regarde elle comment elle est. D'ailleurs, regarde comment elle fait, comment elle parle. Alors toi, en ce moment-là, au même moment, simultanément, tu es en train de te dire, d'ailleurs moi je parle mieux que lui. D'ailleurs moi je prêche mieux que lui. D'ailleurs moi je fais mieux que lui. D'ailleurs que moi, mieux que lui. Égoïste. C'est de l'orgueil que tu entretiens. Et tu attristes l'Esprit de Dieu. La Bible dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et dans le contexte, ce passage a à voir avec le comportement des chrétiens dans l'Église. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire aux enfants d'Israël, toi qui tues le prophète, nous avons tué nos prophètes, nous avons tué nos pasteurs en les critiquant, en les médisant, en les calomniant. Rappelle-toi que tu es le sel. Et le sel a comme propriété de bloquer, de stopper la corruption. Bien-aimé, deviens une barre de fer par rapport à la corruption. Quand quelqu'un vient avec toi avec un esprit de médisance, je voulais dire, écoutez, il n'y a rien de plus efficace que le silence. Quelqu'un vient vers toi, il médit. Oui, frère Kingan, écoute au bruit. Mon colonel, il y a la vérité. Ah, bon nanda au casbar, va bien. C'est comme ça que ça fonctionne. Écoutez. Parce que tu sais, vous savez quoi? La médisance attire une autre médisance. C'est comme une profondeur, ça attire. Une fois que tu alimentes la médisance, vous allez aller de gloire en gloire dans la médisance. N'entretiens pas la médisance. Si quelqu'un vient avec la médisance, bloque mes pieds. Je ne bouge pas. Jusqu'à ce que tu changes de conversation. Écoutez, ce qui nous tue le plus, c'est des relations que nous avons. Tu es un enfant de Dieu. Tu sais que ces choses ne sont... Écoutez, la médisance, c'est un poison. Ça tue l'église, ça fragilise l'église. J'ai voulu éviter ce texte, ce message, ce point. Je me disais, mais Seigneur, comment est-ce que je vais faire introduire ce point? Et plus je voulais l'éviter, plus le Seigneur me le remettait dans mon cœur. Je crois que c'est un mal que nous devons chasser de l'église, que nous devons chasser de nos conversations. Nous nous détruisons nous-mêmes. Nous sommes incapables de travailler ensemble parce que dans nos cœurs, il y a de l'amertume qui s'est installée. Amertume. Les Congolais, je ne sais pas ce qui se passe avec nous, mais nous sommes incapables de travailler ensemble. À Cape Town, il y avait une revendication que le Congolais devait faire. Alors ils ont réussi à se mettre ensemble. Ils ont commencé à marcher une marche pacifique. Et à quelques mètres d'arriver là où ils devaient faire entendre leurs réclamations, ils ont préparé déjà un discours de choses qu'ils devaient dire. Et vous savez ce qui s'est passé? À quelques mètres, ils se sont mis à se disputer. Bien-aimé, la manifestation s'est arrêtée net et chacun est rentré chez lui. Si près du but, si près de l'objectif. Une fois, il y avait un match. Je ne suis pas très fort en football. Il y avait un match Vita Imana. Je crois que c'était Vita Imana. Alors l'une des équipes jouait avec une équipe, mais d'un pays étranger. Alors l'autre, les supporters de l'autre équipe, au stade, se sont mis à soutenir l'équipe étrangère qui joue avec l'une des équipes de la RDC. Vous voyez à quel niveau nous avons développé nos inimitiés? Je préfère soutenir une équipe étrangère plutôt que ma propre équipe. Pourquoi? Parce que je ne partage pas les mêmes points de vue. Et ces choses, écoutez, nous avons combien de partis politiques en RDC? 500! Mais c'est inimaginable! 500 partis politiques! Nous sommes incapables de nous regrouper! Nous sommes incapables de nous mettre ensemble! Chacun veut être chef! Chacun veut dominer! Chacun veut faire la loi! Et nous sommes incapables, je suis... Écoutez, quand les chrétiens font des débats, là je parlais des païens, mais c'est le même esprit que nous retrouvons même dans le monde. Dès l'instant que je ne suis pas d'accord avec toi, je me retire. Non, il ne faudrait pas toujours que tes idées puissent prévaloir. Accorde aussi à l'autre le temps de faire prévaloir ses idées. Apprends à avoir tort. Apprends à voir l'autre être promu. Mais nous n'aimons pas ça. Nous ne supportons pas ça. Et c'est où que ça se passe? Dans l'église. Je me rappelle, j'ai travaillé quelque part dans le séculier avec un de mes chefs, c'était un blanc. Alors un jour, il est venu vers moi parce qu'il y avait d'autres collègues. Un jour, il est venu vers moi, il me dit, écoute, c'était un anglophone. Il me dit, écoute Ken, tu vas faire quelque chose pour moi. Tu vas aller vers tes collègues et tu vas entendre ce qu'ils disent de moi. Et puis après, tu viendras me le dire. Mais il était tombé sur la mauvaise personne. Je lui ai dit, écoute, je ne ferai jamais ça. Je ne vais jamais faire ça. C'était mon superviseur. Écoutez, quand il s'agit de la foi, on ne transige pas, on ne négocie pas. Shadrach, Meshach et Abednego, quand on voulait les jeter dans la fournaise, ils ont dit, oh roi, nous n'avons pas besoin de beaucoup parler à ce sujet. Nous te respectons, nous nous prosternons devant de toi, mais pour ce qui est de notre foi, nous n'allons pas nous compromettre. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que quelques temps plus tard, on s'est retrouvé à table avec d'autres responsables, d'autres chefs de là où je travaillais. Et le même monsieur s'est mis à témoigner. Il disait, Ken, c'est vraiment un serviteur de Dieu. C'est un homme de Dieu. C'est quelqu'un qui craint Dieu. Pourquoi? Parce que je suis lui dire non en face. C'est ça notre problème. Quelqu'un vient me dire auprès de toi, tellement que c'est ton ami, tu l'aimes, tu n'arrives pas à lui dire non. Et tu meurs par amour. Moi, j'aime dire, Christ est déjà mort par amour. Je n'ai plus besoin de mourir pour quelqu'un. Non, tu vois, c'est mon ami. Non, nous avons tellement de bonnes relations, je ne veux pas le frustrer. Apprenons à frustrer au nom de Jésus. Alléluia. Non, je prie le Seigneur, que le Seigneur puisse faire de nous, de ces hommes et de ces femmes qui vont dire non à la compromission, non à la négociation, quand il s'agit de notre foi. Je suis radical. Et Dieu nous défend toujours. Parce que regardez après, quand Shadrach, Meshach et Abednego ont dit non, le roi est venu et il a vu ce qui s'est passé. Il a dit, waouh, ces gens sont de Dieu. À partir d'aujourd'hui, craignez l'Éternel car c'est lui le Dieu véritable. Alléluia. C'est quand tu prendras la résolution de rester ferme que le nom du Seigneur sera glorifié. Aussi longtemps que tu seras dans la légèreté, tu seras là vacillant, on t'emporte à gauche, tu vas à gauche, on t'emmène à droite. Le nom de l'Éternel ne sera jamais glorifié. Au contraire, sa gloire sera bafouée. Nous allons lire un passage alors que je m'en vais clôturer. La Bible dit dans Ézéchiel, le chapitre 22, du verset 23 au verset 30. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ses prophètes conspirent dans son sein, comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes. Il s'empare des richesses et des choses précieuses. Il multiplie les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Bien-aimé, quand je dis sacrificateur, c'est toi et moi. Nous sommes des sacrificateurs et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence. C'est à nous de faire connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'elle. Dieu est profané au milieu de nous. Ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes. Au lieu de gagner les âmes, nous, nous perdons les âmes. Les gens fuient à l'église. Je ne peux pas supporter une église où on ne fait que parler en mal de gens, où on ne fait que critiquer, où on ne fait que médire pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, des vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Bien aimé, j'aurais voulu parler de quelque chose d'autre ce matin. J'aurais voulu te dire que Dieu te bénira. J'aurais voulu te dire que tu iras de l'avant. Mais je ne le dis pas, parce que nous sommes en train de nous mentir à nous-mêmes. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime les malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Et le verset 30, Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve pas. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme qui va dire non. Dieu cherche un homme qui va dire non. Dieu cherche un homme qui va se lever. Dieu cherche un homme qui va résister. Bien aimé, je sais que les temps sont durs. Et je sais combien cet homme est en train de te proposer quelques billets verts, quelques billets de banque afin que tu couches avec lui. Résiste! Je sais que les temps sont durs. Les enfants ont rien à manger. Je sais que les enfants n'ont pas de Minerval. Je sais que d'ici là, ça sera le mois de septembre. Tu penses déjà à mettre de côté l'argent pour préparer la rente. Je sais que les temps sont durs. Je sais que chez toi, il n'y a pas à manger. Je sais que c'est la fin du mois. Tu dois payer le loyer, mais tu ne sais pas comment tu vas faire. Je sais que les temps sont durs. Je sais que chez toi, il y a enfant malade et tu n'as pas de moyens. Je sais que les temps sont durs, mais résiste parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Le même Dieu qui t'a dit ne te compromets pas, c'est le même Dieu qui viendra à ton secours. Nous servons un Dieu responsable. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Ce matin, je suis en train de voir un homme, je suis en train de voir une femme qui va prendre la résolution de se lever et de porter haut l'étendard du nom de Jésus. Alléluia. Peu importe les attractions, peu importe les sollicitations, j'ai pris la décision de rester fidèle. Je le vois ce matin en ce lieu. Je vois un homme au milieu de nous qui va dire non à la corruption, qui va dire non à la médisance. Je le vois au milieu de nous. Je le vois cette femme au milieu de nous. Et elle est là, il est là. Et Dieu compte sur toi. Romains 11, 4, Dieu dit, mais je me suis réservé 7000 prophètes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Au milieu de toute cette corruption, je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui ont refusé de fléchir leurs genoux devant Baal. Je suis venu te dire ce matin, tiens bon, Dieu compte sur toi et il se souviendra de toi. C'est en ça que consiste ta saveur. Tiens bon, la récompense arrive. La Bible déclare, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Tu vis peut-être le temps des larmes, mais très bientôt, tu vas récolter avec chant d'allégresse. Église, celle de la terre, lumière du monde, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses luire tout autour de toi. Et il se souviendra de toi au moment favorable. Laissons-nous la prière.
Que je suis sans rien en sinon versé.
Alléluia.
Ta voix.
Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Et Dieu, je viens. Je
je suis, je viens.
Tel que je suis.
J'ai à cœur ce matin de lancer trois appels. L'Église dans la société. Tel est le message que Dieu voudrait pour moi, pour toi, pour nous, pour le Congo et pourquoi pas pour l'Afrique. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 13, il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Je lance, en premier lieu, tu n'as pas Jésus comme Seigneur. Tu ne connais pas le Seigneur. Alors que les prédicateurs ce matin, le messager était en train d'annoncer les oracles des dieux, ton cœur est tourmenté. Tu voudrais dire, je veux bien faire tout ça, mais je n'arrive pas. Parce que Jésus n'est pas Seigneur. À toi, je te demanderai là où tu es. Lève-toi, s'il te plaît. Je prierai pour toi et je prierai aussi avec toi. En deuxième lieu, je voudrais prier pour celui qui a reçu un jour Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui marche, qui est passé même par des sacrements. Ce matin, tu te rends compte qu'alors que Dieu te parle, Dieu ne tient pas compte ni de ta communauté, ni de la couleur de tes habits, ni le nombre d'années que tu as dans la foi, ni la capacité ou le potentiel que tu as par la grâce de parler en langue ou de recevoir un don. Mais Dieu traite ta vie. La médisance, la haine, la colère, la jalousie, l'animosité, l'impudicité, l'ivrognerie et toutes ces choses. Tu voudrais dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. À toi aussi, ce matin, je veux te prier de te lever. Mais en troisième lieu, c'est à nous, Église, nous voulons dire à Dieu, Seigneur, nous voulons te prier de nous aider. Aide-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci pour ceux qui s'élèvent. Merci, mon frère. Merci, ma mère. Merci, maman. Merci, mon frère. Merci. Merci, maman. Merci. Merci, toi qui t'élèves. Merci. Merci. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu peux faire cette prière avec moi, Seigneur Jésus. Viens dans mon cœur ce matin. J'ai pris la résolution à lui de ta parole ce matin pour que tu diriges ma vie et sois le maître, le Seigneur. Pardonne mes péchés. Merci pour l'œuvre que tu as fait à la croix. Et merci de me recevoir, de m'accepter. Mais toi aussi qui es debout, qui veux dire à Dieu, Seigneur, viens au secours de ma foi. Qui sait, peut-être qu'après ces quelques minutes, la trompette peut sonner. Est-ce que ce matin, si le Seigneur revenait, tu partiras? Car la vie chrétienne ne s'arrête pas par le fait de passer par les baptêmes ou d'avoir une carte de membre. Mais c'est une vie. C'est le témoignage que le Saint-Esprit a dans ton cœur. Parle à Dieu. Mais aussi à nous, Église, nous voulons dire à Dieu, Seigneur. Un homme de Dieu était en train de dire, je ne veux pas te donner de l'argent parce qu'après, tu vas te marier, tu vas prendre beaucoup de femmes. Quel témoignage nous avons? Quelle vie nous avons? Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, aide l'Église à porter haut l'étendard. Et là, c'est une mission que nous avons. Élevons nos voix ensemble, prions. Alléluia. Merci, mon frère, pour ta voix. Parle. Oh, Seigneur. Seigneur, ce matin, je t'amène mon frère et ma soeur qui a donné sa vie, qui a pris la résolution de te suivre et de marcher avec toi. Je prie aussi pour mon frère, ma soeur, pour ma mère, mon père, qui en ce matin, alors que tu as parlé, il s'est levé pour dire, je ne me sens pas dit. Je me reproche de la colère, je me reproche de quelques pratiques et je voudrais en ce jour prier à toi car tu es capable non seulement de pardonner mais aussi d'effacer les péchés. N'est-il pas écrit, celui qui avoue ses péchés et les délève s'il obtient miséricorde, mais celui qui les cache ne prospère pas. Ce matin, Seigneur, qui connais nos cœurs, nos vies et même nos vies cachées, je te prie de pardonner sincèrement. Oh, nous prions à toi, toi qui dis que notre injustice est comme un abus souillé. Même quand nous pensons bien faire, nous faisons mal. Nous te prions ce matin, viens nous aider. Viens nous aider et relever notre façon de marcher avec toi. Mais aussi, Église au Congo, oh Dieu, quelle chose que nous faisons. Nous te prions de pardonner, mais aussi de nous aider à marcher comme le sel, afin d'arrêter cette putréfaction qui est en train d'affecter notre pays. Dans quelques domaines où nous sommes, dans la politique, dans les entreprises de l'État, à l'OFIDA, à l'OCC, à l'ONATRA, partout où tu nous as placés, dans quelques entreprises de télécommunications, je ne sais pas où, Seigneur. Chaque jour, merci pour ta parole. Merci de nous arroser en ces premiers dimanches de ce mois et en ce jour où l'humanité est en train de célébrer cette fête appelée du travail. Seigneur, nous voulons te dire, aide-nous Seigneur, à être dignes de cette tâche que tu nous as donnée. Si nous pouvons célébrer, que nous puissions célébrer le travail que tu nous as laissé. N'est-ce pas que tu as dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu de l'eau. Mais tu as aussi dit, je vous ai donné le pouvoir. Seigneur, donne à quelqu'un la force de dire à cet homme, je ne veux plus de cette relation. Donne à quelqu'un la force de dire à cette femme, je ne veux plus de toi. Donne à quelqu'un de dire, j'arrête avec l'alcool, j'arrête avec la cigarette. Donne à quelqu'un de dire, plus jamais ça dans ma vie. Et qu'aujourd'hui soit les débuts de tous les restes de sa vie. Bénis la semaine, bénis notre retour, bénis notre église. À toi l'honneur, la gloire et la majesté. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.